Vous êtes sur RTL.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour Nicole Belloubet.
Bonjour.
Plusieurs dossiers chauds, costauds, comme on dit, à défricher avec vous d'ici 8h. Vous confirmez d'abord, Madame la Ministre, que le gouvernement prépare le retour en France des djihadistes français détenus par les Kurdes en Syrie?
Je confirme que nous étudions plusieurs options. La situation nouvelle est liée notamment au retrait des forces américaines a bouleversé la donne et évidemment nous nous préparons à un éventuel retour des Français qui sont actuellement en Syrie, au nord de la Syrie.
Donc jusque-là le gouvernement affirmait, c'est vrai, qu'il serait jugé sur place autant que possible. Ce n'est plus le seul scénario privilégié, c'est ce que vous nous dites.
Ce n'est plus le seul scénario. Au moment où je vous parle, rien n'est certain, évidemment, mais ce n'est plus le seul scénario et il va de soi que si les Français qui sont détenus par les Kurdes devaient être remis en liberté, expulsés, nous avons, je crois, collectivement plutôt intérêt à nous assurer de ce qu'ils deviennent, plutôt que de les laisser libres sans savoir où ils sont.
Combien sont-ils ?
Alors, c'est très difficile à ce stade, au moment où je vous parle, d'évaluer précisément un chiffre. Il y a des chiffres qui ont été donnés, mais qui ne sont absolument pas stabilisés.
Le chiffre environ 130, vous dites, c'est pas un chiffre fiable ?
Je dis ce n'est pas un chiffre stabilisé, tout simplement parce que nous ne sommes pas exactement en mesure de savoir combien il y a de Français dans tous les camps où nous pouvons les situer.
Madame la Ministre, ça veut dire que le gouvernement ne sait pas précisément combien de djihadistes français sont détenus par les Kurdes aujourd'hui ?
Au moment où je vous parle, nous ne le savons pas précisément.
Vous n'avez pas une liste de noms de djihadistes français ?
Nous avons quelques noms, mais je ne suis pas en mesure de vous affirmer que cette liste est stabilisée. Parce que, encore une fois, il y a plusieurs camps. Ces Français sont détenus dans des camps différents et nous devons nous assurer qu'ils sont bien présents dans ces camps.
Donc vous n'en avez pas la certitude ?
De quoi ?
Qu'ils sont tous dans les camps et que vous pouvez, comme vous dites, éviter qu'ils soient relâchés dans la nature par
les Kurdes. Non, mais il y a deux choses différentes. Vous m'interrogez sur deux points différents. Vous m'interrogez sur le point de savoir ce que nous devons faire si ces Français sont expulsés. Je vous dis que nous avons fait un choix, qui est celui de la préférence du contrôle et donc du rapatriement en France. Vous m'interrogez ensuite sur le nombre. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce nombre n'est pas complètement stabilisé.
Principalement des hommes ou des femmes, vous le savez, ça ?
Principalement des enfants.
Principalement des enfants.
Principalement des enfants. Il y a beaucoup d'enfants.
Des enfants, dont des mineurs, vous
dont
dites.
Des mineurs, absolument. Dont, vous le savez, pour les mineurs, certains ont déjà, en faible nombre, été rapatriés en France quand nous avions l'accord de leur mère. Et donc, nous avons déjà pris en charge quelques-uns de ces enfants. Nous avons également la certitude de vouloir prendre en charge des enfants qui sont orphelins. La question la plus importante numériquement, ce sont celles des enfants qui sont sur site et qui sont accompagnés de leur mère, voire de leur père.
Mais pour être clair, comment on parle depuis quelques jours du retour donc des djihadistes français détenus par les Kurdes en Syrie. Ces djihadistes français, vous nous dites que ce sont principalement des enfants mineurs.
Oui, il y a principalement des enfants mineurs. D'accord. Parce que, encore une fois, ces enfants soit sont nés là-bas, soit sont partis tout petits de France avec leurs parents. Donc ce sont des enfants mineurs. On a, si
ils
vous voulez, par rapport...
Ils sont avec leurs parents.
Ils sont avec leur mère.
Ils sont avec leur mère.
Ils sont avec leur mère. Par rapport à ce que nous savons statistiquement au regard des enfants qui sont rentrés en France, ce sont surtout des enfants de moins de 7 ans. Nous pensons qu'il y a à peu près 75%, ce seraient des enfants de moins de 7 ans.
Est-ce qu'il y a en ce moment des fonctionnaires français, des magistrats par exemple, des enquêteurs qui sont sur place pour préparer les conditions du retour et le retour tout court ?
Non, ils ne sont pas sur place. En revanche, nous nous préparons en France à cet éventuel retour. Nous nous y préparons parce que nous savons bien entendu qu'à la fois il va falloir accueillir ces mineurs, il va falloir les présenter à des juges des enfants et il va falloir ensuite leur trouver une solution de prise en compte par le biais des mesures d'assistance éducative. Donc, si vous voulez, nous nous préparons à cela. Oui.
Vous insistez sur les enfants, mais encore une fois, il y a des parents.
Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de parents.
Oui, non, mais
je réponds à votre question. Il y a des enfants, les enfants sont plus nombreux que les adultes. Mais effectivement, il y a des mères et il y a des hommes.
Vous pouvez donc nous assurer ce matin que ces enfants, ces mères, ces hommes seront mis dans un avion pour la France sans aucun risque qu'il n'échappe à votre contrôle.
Ça n'est pas, si vous voulez, la manière dont ces personnes pourraient être expulsées des camps où ils
se
trouvent.
Le véhicule.
Le véhicule matériel. Je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous dire exactement comment cela va se passer, si ça se passe, ni quand ça va se passer. En revanche, ce que je suis en mesure de vous dire, c'est que ces personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, dès qu'elles arriveront en France, elles feront l'objet d'une prise en charge par un juge des enfants, ou bien, évidemment, pour les adultes, elles seront placées en garde à vue et peut-être ensuite mises en examen.
Donc, il y a deux possibilités. Soit ils vont directement en prison, parce que ces personnes font
des adultes,
parce qu'ils font déjà l'objet de poursuites, elles sont déjà instruites, soit elles vont en garde à vue, 96 heures, c'est la procédure dans le cas de terrorisme.
Et vous savez que, évidemment, le fait de s'être rendu sur des terrains de combat peut entraîner, évidemment, l'incrimination d'associations de malfaiteurs terroristes, et donc...
Seulement, c'est-à-dire
entraîne peut-être qualifié d'associations de malfaiteurs terroristes.
Donc le seul fait d'être parti en Syrie est considéré
sur des terrains
comme un
combat
et comme un crime, en tout cas.
Absolument.
Il y a aucune ambiguïté. Donc, parce qu'on peut se demander, est-ce que vous avez suffisamment de preuves justement pour les incriminer, preuves de leur implication dans
les djihadistes? Alors après, je ne suis pas juge en charge de la situation individuelle, mais en tout cas, le fait de s'être rendu sur un terrain de combat à lui seul déjà constitue une infraction qui est sanctionnable.
Ça fait encourir quelle peine minimum?
Ça peut aller jusqu'à 30 ans, mais après.
Mais minimum.
Minimum, ça peut être jusqu'à 7 ans.
Jusqu'à 7 ans. Donc, ils en cours 7 ans minimum, jusqu'à 30 ans. Pour la pénitentiaire, c'est pas simple. Il ou elle, alors là on parle des adultes, seront à l'isolement.
Vous savez, nous avons dit qu'il y avait une étape première lorsque nous recevons quelqu'un qui est considéré comme terroriste, ou en tout cas dans cette mouvance-là, c'est une évaluation. Donc nous avons des quartiers d'évaluation de la radicalisation, ils sont traités dans ce cadre-là pendant 4 mois, puis ensuite ils sont placés dans un lieu qui est un lieu étanche, qui peut être soit de l'isolement si on estime qu'il y a trop de risques de prosélytisme, soit un quartier spécialisé mais étanche pour, là encore, éviter qu'il y ait des contacts avec d'autres prisonniers.
Ils ont leur place réservée, si je puis dire.
Réservée, c'est pas le mot, mais nous avons plusieurs prisons en France qui sont en capacité d'accueillir ce type de
détenus. Il n'y a pas de problème de place?
Pas sur ce type de détenus, non.
Ça, c'est une certitude.
Absolument.
Il y a suffisamment de place que de djihadistes susceptibles de rentrer en France. On met les Français en danger, dit la droite. Totalement irresponsable de faire revenir de Syrie ces djihadistes, disait le député LR Éric Ciotti, par exemple. Irresponsable,
nous
le gouvernement?
Non, je ne pense pas que nous soyons irresponsables. Au contraire, nous sommes face à une situation nouvelle. Nous nous y adaptons parce qu'il y a évidemment des exigences fortes qui se pose à ce moment-là, et nous prenons toutes les mesures pour évidemment assurer, c'est notre priorité, la sécurité des Français. Et ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire immédiatement judiciarisation, placement en détention, me semble relever exactement de cette prise en compte de la sécurité.
Avec une incrimination, encore une fois, automatique
automatique, le juge doit statuer.
Oui, non, mais ce que vous dites, c'est que la justice va les incriminer de collaboration avec l'ennemi en Syrie.
C'est pas collaboration avec l'ennemi. Nous avons association de malfaiteurs terroristes qui suffit.
Voilà. Certains parlementaires, ils ne sont pas très nombreux, mais ils l'ont dit tout. On a diffusé le son hier matin à cette même heure, comme le LR Pierre-Henri Dumont dit, il faudrait mieux les tuer sur place.
Excusez-moi, je ne partage pas cet avis-là.
Vous ne partagez pas, parce que Florence Parly, votre consoeur, l'avait vaguement d'ailleurs laissé entendre, enfin quand je dis vaguement, assez clairement, à une époque, au début du dossier, quand elle est arrivée au gouvernement.
Je ne partage pas cet avis-là. Je considère que nous avons des règles de droit qui s'imposent, et que ces règles de droit, c'est au fond aussi ce qui fait l'honneur de notre pays. Et donc ces règles de droit me semblent en elle-même extrêmement protectrice des Français.
Combien de terroristes jugés pour djihadisme vont sortir cette année après qu'ils auront purgé leur peine?
Une trentaine.
Une trentaine vont,
absolument,
cette année,
oui,
être remis en liberté,
oui,
après qu'ils ont...
Oui, j'ai entendu les chiffres les plus farfelus hier à l'Assemblée nationale, dont un député parlait de, je sais pas, de centaines, non, c'est pas le cas, il y en a 30 qui vont sortir.
Il y en a 30 qui vont sortir, il y a une prise en charge, il y a un suivi qui
Bien
va
sûr,
être...
Vous le savez, là également, au fond, lorsque nous sommes face à des détenus de ce type, il y a une évaluation de leur dangerosité, il y a un placement en quartier étanche, et à la sortie, évidemment, il y a un suivi extrêmement extrêmement strictes par les services de renseignement territoriaux.
Madame la garde des Sceaux, l'Assemblée nationale a donné hier soir son feu vert à la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester. C'est une des dispositions clés de ce qu'on appelle la loi anti-casseurs, interdiction administrative. Charles Larmédé de Courson, qui est un député de droite, mais centriste, pas considéré comme, si vous voulez, un ultra, dit son inquiétude. Écoutez quelques mots.
Quand vous serez dans l'opposition avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues, c'est une pure folie que de voter ce texte. Une pure folie.
Les préfets auront tout loisir d'arrêter ou d'interdire préventivement un Français de manifester.
Non, absolument
un
pas. Pardon, Madame
sans
Martichoux,
mais sans intervention de la justice.
Absolument pas. Tout loisir.
Mais est-ce qu'il y aura une intervention?
Non, mais je prends votre mot parce qu'il signifie quelque chose. Ce que cette loi souhaite faire prévaloir, c'est la liberté de manifester. Et cette liberté de manifester, c'est une liberté qui est forgée sur la base de nos textes constitutionnels, la liberté d'aller et de venir et la liberté d'exprimer.
Permettez-moi de reformuler ma question. J'ai compris.
Et la liberté d'exprimer son opinion.
Est-ce qu'un juge interviendra avant la décision du préfet? Est-ce que l'autorité judiciaire interviendra?
Je souhaiterais terminer. Il y a donc une liberté de manifester qui est une liberté première. Et donc, pour que cette liberté s'exerce, il faut évidemment que nous évitions les scènes terribles que nous avons vues se dérouler en fin de manifestation. Pour cela, il est prévu par cet article 2, qui doit faire l'objet, évidemment, d'un travail par les parlementaires, parce que nous parlons d'un équilibre extrêmement fin, extrêmement sensible. Et ce qui est important, c'est précisément qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, mais que des critères extrêmement précis soient mis à l'œuvre et qu'un contrôle du juge puisse avoir lieu.
Quand,
les
quand,
deux choses...
A posteriori
Madame Martichoux, cette interdiction administrative, elle devra avoir lieu dans les 48 heures avant la manifestation déclarée. Dans ces 48 heures-là, il y a un juge qui s'appelle le juge administratif des référés qui pourra intervenir.
Un juge administratif.
Juge administratif, c'est une mesure administrative, donc logiquement c'est le juge administratif. Et donc nous sommes, me semble-t-il, dans un équilibre extrêmement subtil que au cours de la discussion parlementaire, les parlementaires vont affiner, mais critères stricts, contrôle du juge.
Nicole Belloubet, une réponse très courte. Est-ce que vont être organisés des grands débats dans les prisons pour les détenus?
Je le souhaite.
Est-ce que vous y êtes favorable?
Oui, j'y suis très favorable.
Est-ce
évidemment.
Que vous y serez d'ailleurs?
Mais bien sûr.
Vous pourriez participer.
Mais bien sûr, je pourrais y participer. Comme je souhaite participer à plusieurs grands débats, et notamment en détention.
Il y a une menace de blocage dans plusieurs prisons ce soir. Certains syndicats revendiquent que les fonctionnaires de catégorie C soient upgradés, je puis dire,
absolument,
en catégorie B. Vous avez dit non.
Si vous voulez, nous avons un problème. Alors à la fois, je comprends qu'il s'agit d'une demande de reconnaissance, et j'admets cette reconnaissance, mais nous avons un problème de recrutement. Aujourd'hui, 36% de nos surveillants pénitentiaires n'ont pas le baccalauréat.
Alors
qu'il le faut pour la catégorie B. C'est une des questions sur lesquelles nous avons évidemment...
Vous allez faire un geste?
J'ai dit aux organisations syndicales que ma porte était ouverte pour évaluer, pour faire évoluer le métier de surveillant pénitentiaire et voir si on pouvait accroître le nombre de personnes qui, dans leur carrière, peuvent passer à la catégorie B.
Merci Nicole Belloubet d'avoir été ce matin sur RTL.
Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à l'une et à l'autre. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Cyprien Sini.
RTL Matin, 7h56. RTL.